Chers amis, bonjour. Nous continuons encore aujourd'hui notre chemin d'approfondissement de la parole de Dieu, cette parole qui vient nous rejoindre encore et toujours, qui vient nous réconforter dans les épreuves que nous vivons. Et pour ceux d'entre vous qui suivez déjà ce parcours depuis plusieurs jours, j'espère que ce parcours vous permet déjà de connaître un peu mieux la parole de Dieu et surtout que vous pouvez vous laisser plus facilement rejoindre par cette parole. Et puis pour ceux qui nous rejoignent ces jours-ci, soyez les bienvenus. Hier, nous avons cheminé avec Job. Job, c'était peut-être l'homme de la souffrance par excellence, mais c'était surtout l'homme de la confiance. Confiance en Dieu, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, nous cheminons avec un autre personnage de l'Ancien Testament qui n'a pas eu non plus que des moments faciles. Élie, le prophète de feu. Son histoire nous est racontée à partir du chapitre 17 du deuxième livre des Rois. Avec le prophète Élie, nous revenons dans les temps anciens d'Israël. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, après avoir traversé le désert, après être sorti d'Égypte, s'est installé déjà depuis plus de 200 ans dans la terre promise. Israël a déjà eu ses premiers rois, Saül, David, Salomon, et puis nous avons eu la séparation entre le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. Élie, c'est un prophète qui intervient surtout autour de Samarie. Samarie, c'est la riche capitale du royaume du Nord. Et de fait, Israël, c'est un royaume qui est riche, qui entretient des relations politiques et commerciales intenses avec ses voisins. Et c'est aussi, ça va peut-être aussi avec, un royaume fortement menacé par l'idolâtrie. En liant des alliances avec des princesses étrangères, notamment la princesse phénicienne Jézabel, on a introduit le culte de la divinité païenne Baal. Et c'est dans ce contexte que le Seigneur suscite le prophète Élie, qui est pratiquement le plus ancien prophète d'Israël. Le premier acte d'Élie, c'est d'annoncer une sécheresse à durée illimitée. Et voilà qui compromet les récoltes et donc la prospérité du royaume. Le roi Akab est furieux. Sur l'ordre du Seigneur, Élie se réfugie au torrent du Kérit, où il est nourri par des corbeaux. Mais lorsque le torrent est à sec, il se retire à Sarepta, où il opère une sorte de multiplication de la farine et de l'huile, et surtout il ressuscite le fils de la veuve qui l'a accueilli. Longtemps après, le Seigneur ordonne à Élie de retourner auprès d'Akab, il va faire revenir la pluie. Mais Élie vient trouver Akab, effectivement, et il lance un défi aux 450 prophètes de Baal. Ceux-ci doivent construire un autel et préparer un taureau, mais ils ne doivent pas mettre le feu au sacrifice. Élie, de son côté, fera de même. Et le défi, c'est que celui des sacrifices sur lequel tombera le feu divin devra indiquer qui est le vrai Dieu. Alors les prophètes de Baal commencent, et malgré forces incantations et sous les moqueries d'Élie, rien ne se passe. Élie, de son côté, reconstruit l'autel du Seigneur, il installe le sacrifice et surtout il fait verser des centaines de litres d'eau, cette eau qui est devenue si précieuse en ce temps de sécheresse, sur le taureau. Il prie le Seigneur, et le feu du ciel tombe sur le taureau, l'autel, et il fait même disparaître toute l'eau que Élie avait versée. Élie s'empare ensuite des 450 prophètes de Baal, il les fait égorger dans le torrent voisin. Suite à cet événement, ou en couleur, Élie prie de nouveau, et la pluie tombe sur Israël. La reine Jézabel est furieuse d'apprendre le massacre de ses prophètes. Elle jure de faire tuer Élie. Élie l'apprend, et il s'enfuit, avec son serviteur, vers la ville la plus éloignée, la plus au sud du royaume de Juda, Beersheba. Là, il laisse son serviteur et part tout seul, une journée de marche plus loin, dans le désert. Il s'assoit sous un buisson et il dit « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas plus que mes pères. » Il s'endort, et sûrement en espérant la mort. Mais l'ange vient le réveiller. « Lève-toi et mange !» Il lui apporte à manger et à boire. Élie mange, il boit et se recouche. Alors l'ange recommence. « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Alors cette deuxième fois, Élie se lève, il mange, il boit, il est fortifié par cette nourriture et il marche 40 jours dans le désert, jusqu'à l'Horeb. Et puis, caché dans une grotte, il passe la nuit et il entend la voix de Dieu. « Que fais-tu là, Élie ?» Élie répond. « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté. Ils cherchent à prendre ma vie. » Ensuite, on voit arriver un ouragan, puis un tremblement de terre et un feu. Le Seigneur n'était ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Enfin, c'est le murmure d'une brise légère, et il y comprend que Dieu lui parle dans ce fin silence. Il reçoit d'une manière nouvelle sa vocation. Il y a encore quelques épisodes qui sont racontés dans le deuxième livre des Rois sur le prophète Élie, mais ces premiers événements qui lui sont arrivés sont intéressants pour nous faire saisir toute l'humanité et toutes les difficultés de cet homme qui est brûlé par le feu de Dieu. Car Élie, c'est vraiment un homme de feu. Un autre livre de la Bible, le livre du Siracide, résume la vie d'Élie. Il dit, Siracide 48, versets 1 à 4, Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges. Mais ce feu ne lui a pas épargné les difficultés, au contraire. Si on regarde de plus près l'histoire d'Élie, on peut voir que dans ses premières étapes, le zèle d'Élie est peut-être un petit peu excessif. Je reprends. Élie annonce une sécheresse illimitée. Mais est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur lui avait demandé? Le Seigneur lui dit de revenir auprès d'Akab pour mettre fin à la sécheresse. Mais est-ce que le défi qui est lancé au prophète de Baal vient bien de Dieu? Est-ce que c'est le Seigneur qui a inspiré à Élie de se moquer des prophètes de Baal? Est-ce que c'est le Seigneur qui lui a dit de verser des centaines de litres d'eau sur le sacrifice et surtout d'égorger les 450 prophètes? Certainement, Élie est animé par la puissance de Dieu et surtout par un zèle inconditionnel pour combattre l'injustice et surtout l'idolâtrie. Mais est-ce que les moyens sont bons? On comprend aussi que ces différents actes d'Élie ne lui attirent pas la sympathie d'Akab ou de Jézabel. On pourrait dire qu'il a un peu cherché. Et c'est alors qu'on voit un espèce de retournement radical. Le prophète Élie s'enfuit. Est-ce qu'il aurait perdu son zèle? Il est accompagné par un seul serviteur qu'il laisse à Beersheba. Il préfère rester seul. Il préfère aller mourir tout seul. L'ange lui apparaît, mais ça ne suffit pas à lui redonner le moral. Il arrive à l'Horeb et vide son amertume devant le Seigneur. Je suis le seul à être resté, et il cherche à prendre ma vie. Vous voyez, il faudrait peut-être pas grand-chose pour dire qu'Élie traverse une grosse dépression. Et cet épisode de la caverne, ce sont peut-être tous les états d'âme qui défilent devant le prophète Élie. L'ouragan, le tremblement de terre, le feu. Est-ce que ce n'est pas ce zèle brûlant et désordonné qu'Élie a déployé et qui a attiré une telle colère qui a provoqué sa sollicitude actuelle? La brise légère, est-ce que ce n'est pas le signe de cette action douce et silencieuse en même temps que forte et profonde de la parole de Dieu qui vient travailler le fond du cœur? Cette rencontre avec Dieu provoque chez Élie une très profonde transformation du cœur. Immédiatement après cette rencontre, il fait le chemin inverse. Il appelle le prophète Élisée à l'accompagner. Il déploie son ministère, mais d'une manière bien différente. Il a été transformé au cœur de l'épreuve par la parole de Dieu par laquelle il s'est laissé rejoindre. Voilà donc un homme qui, peut-être comme Jérémie la semaine dernière, qui est tenté par le découragement. Et c'est normal. Lorsqu'on voit des situations ou des valeurs auxquelles nous tenons qui s'effondrent autour de nous, la réaction n'est pas simple. On peut facilement passer du zèle brûlant au découragement profond. Mais si nous le voulons, si nous acceptons de garder le cœur ouvert, c'est peut-être dans ce moment d'épreuve, beaucoup plus que lorsque nous brûlons d'un zèle désordonné, que nous pouvons entendre la parole de Dieu nous transformer. Alors accueillons cette parole pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je pourrais, avec Élie et comme Élie, confier au Seigneur un point de ma vie sur lequel je suis tenté de me décourager. Et une fois que j'ai identifié ce point, je pourrais le mettre vraiment sous la lumière du Seigneur. J'écouterai alors le Seigneur me parler comme il a parlé à Élie, dans le silence de la brise légère, et j'entendrai certainement le Seigneur me relever et me réconforter dans ce combat. J'entendrai le Seigneur m'aider et me conduire pour vivre ce combat autrement. Belle journée avec Dieu.